chronique de la Ligue des droits de l'homme de Laval.
Bonjour Loïc, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui ?
Bonjour, eh bien aujourd'hui, à l'occasion du 11 novembre, je vais vous parler de la guerre 14-18, et en particulier des fusillés pour l'exemple.
On vous écoute.
Eh bien dans quelques jours, nous célébrerons l'amnistie de la guerre 14-18. Occasion de rappeler l'importance de la paix, bien entendu, et de rappeler un autre souvenir également, le sacrifice de ces jeunes hommes morts dans l'enfer des tranchées. Mais c'est aussi l'occasion de remettre en lumière le combat de la Ligue des droits de l'homme pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, mutins, soldats étrangers et soldats coloniaux. Depuis la Première Guerre mondiale, la LDH s'est saisie de cette cause des fusillés pour l'exemple, victime des tribunaux militaires. C'est la seconde grande cause historique après l'affaire Dreyfus et elle continue d'ailleurs de le défendre. En ce qui concerne les mutineries, il importe d'éclairer en particulier le rôle joué par Philippe Pétain, nommé général en chef le 15 mai 1917, qui a eu recours à des procédures exceptionnelles en supprimant les recours en grâce et ce pour hâter les exécutions et en isolant les soldats considérés comme meneurs pour les envoyer sans procès, dans les bagnes coloniaux où beaucoup sont morts de traitements inhumains et dégradants. Pour sa part, la LDH est attachée à faire connaître toutes les victimes de la justice militaire et demande l'inscription des noms des fusillés sur les monuments aux morts. En 1917, les mauvais sujets, pour reprendre la termination de l'époque, soit près de 2000 hommes, ont été prélevés au sein des régiments mutinés et furent victimes sans jugement de déportations dans les colonies. D'autres soldats, tout au long de la guerre, ont été victimes d'exécutions sommaires qui paraissent particulièrement nombreuses parmi les étrangers engagés volontaires et les troupes coloniales. L'historien Éric Viaud rapporte qu'en 1914-1915, il y avait beaucoup de cas de blessures considérées comme suspectes ou mutilations volontaires avérées ou pas. Mais l'essentiel pour la hiérarchie militaire était bien qu'il fallait faire des exemples. Quant à l'accusation d'abandon de poste, les arguments des explications des soldats n'étaient quasiment jamais pris en compte. En Mayenne, 3 hommes sont concernés, Léon Caron, Victor Brizard, Eugène Jean-Marie Bélanger. Victor Brizard est jugé le 16 avril 1915 pour abandon de poste après avoir déclaré des coliques et est fusillé le lendemain à 5 heures le matin. Pour Léon Caron, la justice est encore plus expéditive, car traduit en conseil de guerre le 19 octobre au matin pour blessure suspecte, il a été fusillé 2 heures plus tard. La création au musée de l'armée, à l'Hôtel national des Invalides, d'un espace consacré à cette question des fusillés pour l'exemple, doit être saluée comme une avancée. Elle va dans le sens que souhaitait exprimer le 11 novembre 1998 à Crosne par le Premier ministre d'alors, Lionel Jospin, qui avait demandé que les fusillés, pour l'exemple, réintègrent notre mémoire collective nationale. Mais cela ne répond pas à notre demande de la LDH de réhabilitation de tous les soldats injustement condamnés. Une vraie réhabilitation implique l'annulation judiciaire des condamnations et donc une série de décisions individuelles. Une loi d'amnistie n'efface pas la condamnation et l'acte de réhabilitation ne peut relever d'une loi. Par contre, une loi peut installer, en le motivant par une reconnaissance civique et morale, un processus qui conduirait à la réhabilitation judiciaire. La réhabilitation judiciaire qui implique l'annulation des condamnations ne peut être que le résultat d'une série de décisions individuelles qu'une commission peut préparer en transmettant à la Cour de cassation un ensemble de cas qu'elle aura examinés. L'objectif d'une telle commission serait de s'efforcer de faire la lumière sur le plus grand nombre de faits possibles. Une telle commission pourrait rassembler des historiens, des juristes, des représentants d'associations et le service historique de la défense. Ce travail doit être poursuivi sur des questions occultées ou méconnues de la Grande Guerre qui ne présentent pas seulement un intérêt pour l'histoire, mais aussi un enjeu contemporain.